Le MAG de l'IMO, la matinale info et rencontre dédiée à l'immobilier, chaque vendredi 7h-9h en direct sur Radio IMO.
Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue sur Radio IMO pour cette deuxième heure du MAG de l'IMO en compagnie de notre invité. Alors les plus chanceux, ceux qui seront levés déjà il y a quelques minutes, auront eu le plaisir de l'entendre avec cette chanson, Una Storia Importante. Mario Baravecchia, bonjour.
Bonjour, merci de m'accueillir dans cette émission matinale. Hein.
C'est vrai, mais bon, vous avez l'air en pleine forme, ça tombe bien. On est en compagnie également de Fabienne Lissac, comment ça va Fabienne?
Très bien, bonjour, et puis je suis tellement contente d'avoir un pro de l'immobilier qui en plus sait chanter, et pas seulement sous la douche, c'est pas tous les jours, c'est une vraie chance que nous avons.
Alors Marion, on vous redonne les clés hein, de cette heure, vous êtes à la programmation, on va vous écouter, votre parcours, évidemment, vous allez réagir aussi à l'actu, et puis eh bien, on écoutera pas mal de musique, puisque voilà, ça sera le fil rouge un petit peu de cette émission. C'est vous qui êtes à la programmation. Mais tout de suite, je laisse la parole à Fabienne.
Oui, pour rappel, Mario Baravecchia, il sait à peu près tout faire, mais vous l'avez certainement connu pour sa participation à la toute première saison de la Starac. Remportée certes par Jennifer, mais souvent, surtout on se souvient que Mario, finaliste, eh bien, il a marqué les esprits par son humour, sa complicité avec le trublion de l'édition d'ailleurs, Jean-Pascal. Et puis, quelques temps plus tard, il s'est éloigné de la musique pour se diriger vers les affaires. Il faut le savoir, il est devenu patron de presse, il a créé un magazine et maintenant c'est un professionnel de l'immobilier. C'est un parcours vraiment extrêmement riche. Vous êtes tout terrain en fait, Mario Baravecchia.
Écoutez, moi j'adore les projets, je suis ambitieux, j'aime le challenge. Et surtout, si je fais rien, je m'ennuie. Donc je fais beaucoup, beaucoup de choses, mais il faut faire attention aussi de ne pas faire trop de choses pour ne pas s'éparpiller et puis faire les choses moins bien. Tout se passe bien, je suis très content, moi, en tout cas de ces 10 dernières années, tout va très bien.
Et c'est vrai que vous êtes tout jeune, hein, né en 1976, en Belgique, hein, faut le savoir. On entend la tonalité italienne, mais je le disais, vous êtes tout à la fois, vous parlez également italien, vous grandissez dans une famille modeste et puis très attachée à votre grand-père, semble-t-il. Vous écrivez un poème que vous allez chanter sur toutes les scènes. Ça y est, ça vous a lancé.
Ah, vous avez fait des recherches. Bah, oui, c'est un peu mon grand-père maternel qui m'a élevé, était arrivé après la guerre pour à travailler dans les mines, comme beaucoup, beaucoup d'Italiens à l'époque, et de Siciliens, et de Polonais aussi, etc. Et donc, effectivement, mes grands-parents maternels m'ont élevé pendant 6 ans avec mon petit frère, parce que mes parents travaillaient tous les deux, ma maman l'usine, mon père était restaurateur, donc c'était très compliqué. Et ils m'ont inculqué les belles valeurs, le respect, et je leur dois beaucoup. Et effectivement, mon grand-père est parti assez vite parce qu'il avait les poumons, bien entendu, remplis de charbon, et il a eu cette maladie que beaucoup de mineurs ont eu.
Vous aviez 12 ans.
Voilà, ça, j'avais 12 ans. Et puis j'ai écrit un petit poème, comme ça, en hommage à mon grand-père, et j'ai commencé à le mettre en musique avec un des frères de Frédéric François, puisque son papa travaillait aussi dans les mines, hein, Frédéric François, et mon papa était très proche de la famille, et Fredo, aujourd'hui, est un ami. Et donc c'était le jeune frère de Frédéric François qui a mis cette chanson en musique. Et j'ai commencé les concours de chant avec cette chanson.
Comment s'appelait cette chanson?
Mal de toi? Grand-père, non, simplement grand-père. C'est un hommage. Effectivement, le public était très touché par ce môme de 11-12 ans qui chantait son grand-père disparu, quoi. Voilà.
Et puis c'est pas rien. Il y a eu cette aventure musicale, la Starac. Ça a été une tempête. Racontez-nous, qu'est-ce qui vous reste?
Bah, effectivement, donc j'ai commencé à chanter en Belgique. J'ai fait une petite carrière en Belgique, mais effectivement, la Belgique est un petit pays divisé entre les Flamands, les Wallons. Donc c'est très compliqué de pouvoir vivre de sa passion. Et comme tous les chanteurs là-bas, on rêvait de traverser la frontière et de venir en France. Hein, comme Salvatore Adamo, comme plein d'artistes, Lara Fabian,
Angèle.
Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'artistes belges, effectivement, qui sont là, qui sont présents. Et donc, je suis arrivé en France avec ma petite valise en 99.
C'est pas Linda de Souza, mais c'est la version.
Non, mais c'est exactement ça. Je devais avoir 4000 francs français à l'époque, et j'avais manqué ma mère. Je dis à ma mère, écoute, je vais loger chez des amis à Paris. J'ai du travail, alors que j'avais rien de tout ça. J'étais seul. Et quand mon cousin m'a laissé dans le 9e, dans le quartier Opéra, je dis c'est là, j'avais loué une chambre de bonne et je suis resté un an dans cette chambre au 8e étage sous les tuiles. C'est un placard, hein, voilà. Et finalement, bon, j'ai eu pendant 15 jours, c'était compliqué.
C'est bien, dans l'immobilier.
Qu'est-ce qu'on fait là?
C'est bien, dans l'immobilier, vous avez tout de suite une entrée en matière à Paris sur une surface significative.
Ah, bah oui, ça devait faire 8 mètres carrés, vous voyez, donc avec les toilettes au fond du couloir. Je ne sais même pas si c'était légal déjà à cette époque. Mais bon, et finalement, j'ai passé un an de ma vie, j'étais très heureux parce que j'ai pris mon destin en main, j'étais finalement indépendant et j'étais là pour la musique, donc j'ai frappé aux portes, j'ai fait des castings, j'ai fait des auditions, j'ai effectivement travaillé dans un restaurant pour pouvoir subvenir à mes besoins et j'ai passé vraiment des années super heureuses à Paris.
Une question, Mario Baraveca, à cette époque-là, vous aviez déjà fait des concours de chant, des décrochés. Comment on accède justement à la Starac, puisque c'était un tout nouveau programme à l'époque, hein, c'était les premiers pas de la télé-réalité. Et question subsidiaire, est-ce que c'était Mario Baraveca ou Ricky Florian?
Ah, c'est vache. Hein. Ah, vous avez vu un pseudo exceptionnel hein, que j'avais à l'époque, effectivement. Après, il y a eu Ricky Martin quand même, hein, il m'a copié. Ouais, hein, j'étais déjà tendance.
On n'entend plus parler de lui d'ailleurs.
Non, c'était Mario. Comment on arrive C'est le destin qui a frappé à ma porte. Hein. Moi, je crois très fort au destin. Il n'y a pas de hasard. J'allume un jour la télé en arrivant chez moi et je vois ce spot publicitaire. Si tu es chanteur, envoie-moi ta cassette. À l'époque, c'était des cassettes VHS. Fallait se filmer. Et la pub m'a fait penser à la série Fame. Je ne sais pas si vous avez cette
génial.
Série. L'académie où on apprend à chanter, on apprend à faire du théâtre. Et je me dis, waouh, c'est sur TF1. Bon. Je l'ai fait sans y croire parce que je me dis que ce genre de choses, de toute façon, il devait y avoir des centaines de milliers de personnes. Effectivement, il y avait 200 000 candidatures à l'époque. Et je suis arrivé. On commence à y croire quand on est dans les 1000 et qu'on se dit bon, on nous appelle, on fait les castings, on voit le psy, on voit. Enfin, et là, je me dis bon. Et j'en avais parlé à personne hein, dans ma famille parce que pour ne pas les décevoir après. Et puis là, quand Arthur t'appelle et tu es dans les 50 derniers, ah oui. Là, tu commences à y croire. Voilà, tu te dis quand même, il y a quelque chose qui se prépare. Et puis voilà, oui, et puis tu te retrouves dans les 16, et puis tu te retrouves à la finale.
On voit, parce qu'il y a des niveaux quand même maintenant incroyables, enfin, qui oui. montent d'année en année, mais là, à l'époque, même dans les 50, sur 1000 ou 200 000, on doit se dire, mais est-ce que j'ai ma place? Est-ce qu'on est légitime finalement? En plus, vous êtes tout jeune.
Après, la Starac, c'était vraiment une école. Donc, vous avez vu que... à la Starac, tout le monde ne savait pas chanter. Hein je pense à mon ami Jean-Pascal.
Oui, je ne sais pas le dire.
Non, mais que j'embrasse très fort.
Il sait faire des séries, c'est
non,
bien.
Non, mais voilà. Donc, c'était vraiment une école. Aujourd'hui, c'est le contraire. C'est qu'on prend tellement des niveaux très, très hauts, comme The Voice, par exemple, où ça devient très compliqué.
Ouais.
C'est même trop. Parce que les gens, qu'est-ce qu'ils veulent voir à la télévision, le public? Ils veulent voir justement
l'amateur
l'artisan chanteur amateur qui se trompe, qui fait des gourdes.
On veut s'identifier,
etc. C'est ça.
Exactement. Ouais. Là, on est
chez les pros. Hein, ouais,
voilà.
Ouais.
Et c'est ça que on avait touché le cœur des Français pour ça, parce qu'ils nous voyaient d'abord. C'était la première émission. Même la production ne savait pas où elle allait, donc on était vraiment très spontané, très très naturel.
Je le rappelle, c'est une émission, la Starac, qui proposait de suivre tous les jours des apprentis chanteurs. Donc on les voyait effectivement progresser. Et quand on vous voyait comme ça faire le prime time, vous aviez l'air tellement à l'aise, vous étiez sur votre place tout de suite hein, sur scène.
Alors, j'ai eu la chance d'avoir fait des émissions de télé en Belgique, d'avoir fait des concerts déjà. Donc j'avais quand même ce petit bagage. En plus, par rapport à d'autres. Mmh. Et donc, j'étais peut-être plus à l'aise que d'autres. Mais bon, il y avait le samedi, quand on devait chanter avec Elton John, vous inquiétez pas, on avait le track. Et on était pas bien. Hein, voilà, parce qu'on n'est jamais préparé à... Vous vous rendez compte, quand même, on travaillait la semaine pour chanter avec des immenses stars le samedi.
Bon, le château,
ça n'existe plus, ouais. Ça, aujourd'hui.
Le château, il était pas mal. Hein, on est à Radio Imo. Hein, on regarde les choses à travers l'immobilier, on vous voyait dans une grande bâtisse.
Ouais.
C'était sympa, là, cette expérience.
Il avait été préparé pour l'émission, donc effectivement, maintenant, malheureusement, j'ai pu entendre qu'il était tombé un peu en ruine. C'est dommage qu'il n'y ait pas quelqu'un qui ait pu récupérer ce château pour en faire, je sais pas moi, un lieu de tourisme ou de séminaire, parce que c'est une belle demeure.
Vous êtes resté en contact avec ces autres chanteurs, ces personnalités en tout cas, certains
d'entre eux. Bien sûr, là on a fait les 20 ans il y a pas très longtemps, mois d'octobre ou novembre dernier. Oh. Donc on s'est tous revus, mais effectivement, depuis le début, j'ai un lien très fort avec Nikos, qui est vraiment comme un grand frère pour moi, mais pour beaucoup de monde aussi. Donc qui est toujours là, présent. C'est vraiment quelqu'un d'entier, de humble, et puis qui n'oublie pas aussi ses racines. Donc voilà, c'est pour ça qu'il est comme ça. Mais Jean-Pascal aussi, effectivement, ces 20 ans ont permis de se revoir et de se remettre un petit peu en contact avec certains, et ça fait vraiment plaisir.
Et puis vous avez la fibre entrepreneuriale, et après, alors, vous avez lancé un magazine féminin. C'est tout à votre honneur, hein, franchement, de donner la parole aux femmes, et maintenant on en parle beaucoup, mais à l'époque c'était déjà pionnier, hein.
Oui. Mais j'ai été élevé par, je vous dis, ma grand-mère, ma mère. J'ai toujours été entouré de femmes avec du caractère, des femmes qui se battent. Parce que ma grand-mère sicilienne, elle allait travailler aussi, hein, même si elle avait 4 enfants. Et on pourrait croire que la grand-mère sicilienne restait à la maison et faisait la sauce tomate, mais non, pas du tout. Et donc, je pense même qu'à l'époque, on était beaucoup plus moderne finalement. Qu'aujourd'hui.
Ah bon ?
Parce qu'aujourd'hui, on doit prouver que la femme a sa place, alors qu'elle l'avait déjà depuis très très longtemps. Et ce magazine, il est venu un peu naturellement en 2010, quand j'ai décidé d'arrêter ma carrière, parce qu'il y avait la crise du disque, parce que je ne savais pas où on allait, les concerts, c'était de plus en plus compliqué. Et j'ai décidé, j'avais déjà un petit garçon, de préférer de mettre à l'abri ma famille, de développer des affaires. Je ne cache pas que effectivement Mario de la Starac m'a aidé à ouvrir des portes et à faire certaines choses. Et j'ai bien fait. Avec le recul, aujourd'hui, ça fait 11 ans que le magazine existe. Il y a une version nationale qui sort. Il y a une autre édition en Corse qui va sortir. Voilà, on travaille. Ça demande beaucoup d'énergie. Mais je suis très, très heureux de ce parcours.
Ouais, bienvenue dans le monde des médias. Enfin, ça fait longtemps déjà. Vous savez, je vous le disais, Fabrice, Mario Baravecchia, il est tout terrain. Quand on lui a demandé, donnez-nous le contact d'un ami, on aimerait qu'il nous parle de vous. Je pensais que c'était un petit jeune comme lui. Eh bien, on va écouter Gilles Poissonnier, un petit jeune homme de 60 ans.
Ah, oui.
Et c'est tout à fait... émouvant de l'écouter.
Ah ben alors,
On écoute Gilles Poissonnier. Gilles Poissonnier, bonjour. Vous êtes un ami de Mario Baravecchia. Comment vous êtes-vous rencontré ? Ça fait longtemps que vous connaissez ?
Voilà, c'est une dizaine d'années environ, lorsque j'étais directeur général du club professionnel de basket ici à Dijon. Et lorsque Mario a ouvert son établissement qui s'appelle La Villa, il a fait une invitation pour lancer son établissement et on s'est rencontrés à ce moment-là et on s'est jamais quittés.
Qu'est-ce que vous appréciez chez lui ?
C'est ce côté très humain, très très facile d'accès au sens noble du terme, et puis beaucoup de sincérité. C'est un garçon qui n'a absolument rien à cacher, qui donne, on sait qui il est tout de suite et il est fidèle en amitié. Voilà, c'est un garçon très simple, très efficace.
Alors, c'est amusant, hein, parfois quand on cite des amis, de même génération. Mmh. Vous êtes un petit peu plus, un peu son aîné. Ça montre que quoi, c'est des relations père-fils, c'est des relations... donc il s'intéresse à être avec des gens qui ont un petit peu plus d'expérience.
Ce qui l'intéresse beaucoup, c'est le côté humain. Alors, je crois que dans ces conditions, l'âge a peu d'importance pour lui. Ce qui compte, c'est de rencontrer des gens envers qui il a une grande confiance et en qui il peut donner son amitié. Voilà. Et puis surtout, partager les bons moments. Parce qu'avec Mario, on partage beaucoup de bons moments. C'est un garçon aussi très
Qu'est-ce
heureux.
Que vous faites, par exemple, des soirées comment
Un truc très simple, c'est que... 3 ans maintenant, il participait au jury des Miss Belgique, et donc il m'a demandé de l'accompagner. On est partis 3 jours tous les deux en Belgique pour participer donc à cette élection Miss Belgique. Il a fait un tas d'émissions de radio, il a rencontré des gens très sympas. Ça m'a permis aussi de rencontrer un petit peu le monde qui pratique par ailleurs, qui est aussi et encore un petit peu toujours le monde de la chanson. J'ose pas dire le show business parce que pas tout à fait ça, il aime pas trop, mais le monde de la chanson quoi.
Alors dites-moi, il a brillé dans le domaine de la musique, effectivement, la télévision. Il se développe très très bien, belle réussite dans l'immobilier. Aidez-nous à le connaître. C'est une personne qui est capable de réussir sur tous les terrains.
Évidemment, sur tous les terrains, je sais pas s'il serait très bon brandeur de mobilette, hein, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est un garçon qui est, on va dire, très simplement, c'est un bon commercial, au sens, encore une fois, très noble, très propre du terme. Donc ça me surprend pas du tout qu'il est en train de réussir dans le métier d'agent immobilier, ça me surprend pas du tout.
Et là, il vous écoute, qu'est-ce que vous avez envie de lui dire ?
qu'il faut vite qu'on se revoie parce que j'ai passé une journée sans rigoler avec lui, donc il faut qu'on se revoie très très vite. Voilà, on s'adore et c'est un garçon adorable qu'on a envie de revoir à chaque fois et donc voilà, on se voit régulièrement. C'est un garçon qu'il faut rencontrer et qu'il faut connaître, franchement.
Merci Gilles Poissonnier, vous avez la chance d'être l'ami de Mario Baravecchia.
Alors Mario, vous ne vous limitez pas à l'univers de la musique, vous êtes des amis un peu partout.
Non mais il a raison, la vie elle est faite de rencontres. Et quand vous rencontrez des gens, qu'ils aient 20 ans, 30 ans ou 60 ans, voilà, si le feeling passe, c'est deux êtres humains finalement qui échangent des choses. Les valeurs, encore une fois, les valeurs. Moi, j'aime les gens, j'aime l'être humain. Donc, j'aime passer des belles soirées aussi, il le sait. et j'aime partager, voilà, avec les gens que j'aime.
Et ensuite, vous êtes dit, tiens, l'immobilier, ça a l'air d'être un secteur qui se développe. Comment
alors,
c'est venu ?
Je ne me suis pas dit comme ça, en fait. Il y a eu le confinement, effectivement, ce premier confinement. Et donc, dans l'édition, et mes partenaires, qui étaient principalement des hôteliers, des restaurateurs, enfin, tout ce qui est
événementiel,
service aussi tourisme, hein, puisque c'est un magazine qui est lié au tourisme, on était un peu à l'arrêt. Je vous avoue que j'avais un peu peur hein, de la suite, comme tout le monde. Et effectivement, avec mon associé et le président du groupe, Christophe Guillon, qui m'en avait déjà parlé, et voilà, et j'avais pas envie de faire les choses à moitié. Donc effectivement, l'immobilier, c'est un investissement, et j'avais envie vraiment de réfléchir au bon moment, et le bon moment est arrivé, finalement, avec ce confinement. J'ai pu me former avec Christophe dans une de ses agences, j'étais à Montpellier avec lui, voilà, et j'ai vite découvert que finalement, le métier de l'immobilier, c'était de l'humain aussi. Voilà. Et il faut aimer les gens. Et il ne faut pas tricher. Et donc j'ai l'impression en fait, d'être dans l'immobilier depuis toujours. Parce que c'est des rencontres aussi, encore une fois. Hein. Voilà, c'est de donner sa confiance, c'est prendre la confiance des gens aussi. Et je prends l'exemple d'une dame, par exemple, qui a un certain âge, à qui j'ai vendu des biens. Elle m'a fait penser à ma grand-mère. Elle était toute seule, veuve, etc. Et donc on a envie j'ai envie de l'aider. Et j'ai envie d'aller au bout du dossier avec cette dame. Encore une fois, c'est de l'humain.
Alors c'est vrai, vous êtes installé à Beaune, belle région, hein, quand on aime les vins, les Bourgognes, il y a plein d'autres attraits. Le marché de l'immobilier là-bas, vous n'avez peut-être pas choisi le plus facile quand même. Hein.
Bon, écoutez, d'abord, c'est une très très belle ville, Beaune. Hein. Je suis beaunois depuis 17 ans. Effectivement, on boit du bon vin et on mange bien. Hein, donc...
C'est déjà pas mal.
Et il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses à faire. Effectivement, Beaune, c'est une petite ville. Hein. Nous, on a quand même un axe qui est assez important parce qu'on va de Nuit-Saint-Georges jusqu'à Chalon-sur-Saône, aussi quelques clients Dijon, mais Dijon, il y a 7 agences Réservoir Immo, voilà. Et nous, avec ma femme qui travaille avec moi sur l'agence et des collaborateurs et collaboratrices, voilà, on a quand même un marché qui va jusqu'à la Saône-et-Loire, Chalon-sur-Saône et même plus loin. Donc ce n'est pas que Beaune, hein, précisément.
On me disait qu'il y avait une pénurie de logements, donc il ne faut pas rater la bonne affaire.
Oui, parce que malheureusement, comme dans toutes les petites villes touristiques, il y a cette vague de Airbnb. Hein, donc si on ne l'a pas géré à temps, si certains maires n'ont pas eu l'idée de stopper tout ça à l'époque, malheureusement aujourd'hui, c'est pour ça que d'abord le prix de l'immobilier a flambé à Beaune. Et puis vous avez des appartements qui sont vides parce que il est loué pendant la saison.
Hein, les habitants même ont du mal à trouver un logement.
Bien sûr, mais les habitants de Beaune vont habiter à 20 km de Beaune, 30 km.
Alors, certainement, sur ces combats sur scène, de toutes ces expériences, vous avez dû garder des atouts qui vous permettent d'être si performant dans les autres secteurs, l'immobilier, parce que j'ai entendu que vous chantez magnifiquement cette chanson « Je garde hein, ». C'est un duo avec Jennifer. « Je garde ». Vous gardez quoi ? Vous gardez quoi de tout ce parcours ? Eh bien, vous allez nous le dire après cette chanson avec Jennifer. « Je garde ».
Je garde les photos que tu n'as jamais prises et mes premiers sourires donnés, passantes mes conquises. Je garde tes soupirs au matin des beaux jours, tes yeux qui me désirent sous tes regards à contre-jour.
Je garde nos faiblesses qui nous rendent plus humains,
nos silences inutiles et le langage de nos mains.
Il
bien noir sur blanc, seulement ce que je sens.
Rien ne s'écrit vraiment, seulement ce que je sens.
C'est comme ça que je nous vois.
Les reflets,
je garde
dans mes yeux.
Je garde tout l'horizon.
Je garde
pour un rien.
Je garde la douceur.
Je garde
de mes mots.
Je garde de lumière.
Je garde que pour toi.
Je garde les couleurs.
Je garde
passé.
Je garde le vendant,
je garde
mes cheveux,
je garde toutes nos nuits,
je garde
nos mensonges,
je garde mes ça nous regarde. Je garde toutes ces lettres que tu n'as pas écrites, toutes ces phrases que j'attendais, que tu n'as jamais dit.
Je garde les blessures que l'on a pu se faire.
Parce qu'on aime sans armure, sans barrière et sans mur de pierre.
Il y a bien noir sur blanc, seulement ce que je sens.
Rien ne s'écrit vraiment, seulement ce que je sens.
C'est comme ça que je nous vois.
Je garde tout l'horizon.
Je garde
pour un rien.
Je garde la douceur.
Je garde
de mes mots.
Je garde de lumière.
Je garde que pour toi.
Je garde les couleurs.
Je garde
du passé.
Je garde le vendant.
Je garde
mes cheveux.
Je garde tout le bruit.
Je garde
nos mensonges.
Je garde mes ça nous regarde.
Comme ça que je nous vois.
Les reflets,
je garde
dans mes yeux.
Je garde tout l'horizon.
Je garde
pour un rien.
Je garde la douceur.
Je garde
de mes mots.
Je garde de lumière.
Je garde que pour toi.
Je garde les couleurs.
Je garde
du passé.
Je garde le vendant.
Je garde
mes cheveux.
Je garde tout le bruit.
Je garde
nos mensonges.
Je garde mes ça nous regarde.
Ça nous regarde.
Ça nous regarde.
Tu gardes.
Ça nous regarde.
Ça nous regarde.
Je garde.
Ça nous regarde.
Alors, vous avez choisi ce titre, Je garde. Vous avez tellement de belles chansons, beaucoup de duos magnifiques. Pourquoi celle-là en particulier ?
Mais parce que cette aventure avec Jennifer a marqué le cœur des Français et a marqué aussi le mien, puisqu'on a passé quand même quelques années ensemble. J'ai fait un duo sur son album, j'ai fait une tournée avec elle. Voilà, on a passé quelques super moments. Et puis parce que cette chanson était vraiment, et je trouve, une très très belle chanson, un beau partage, et beaucoup de gens sur les réseaux sociaux me la réclament souvent. Donc voilà, quand vous m'avez demandé la chanson, j'ai pensé tout de suite à celle-là.
Et on voit sur les réseaux qu'il y a eu une brouille avec Jennifer. Alors où en est-on ?
Une brouille ?
Oui.
Oui, bon, c'est une vieille brouille. Aujourd'hui, c'est derrière. On a tous les deux grandi. On a pris 20 ans. Hein. Ouais. Mais ça se voit pas trop. Hein.
Non, pas du tout.
Là, je rentre mon ventre. Là.
Vous êtes magnifique. Vous êtes revus il y a pas longtemps.
Non, mais voilà, ouais. Effectivement, quand tu... On n'a pas les mêmes idées, on n'a pas les mêmes la même vision des choses quand on a 25 ans et quand on en a 45. Voilà, on a certainement fait des erreurs, elle et moi, à un moment donné.
Mais qu'est-ce qui avait clashé à l'époque, comme on dit ?
Vous savez, c'est des interviews entre presse, puis elle balance, puis j'ai balancé, puis la presse prend un malin plaisir aussi de faire des gros titres avec certaines informations. Et finalement, on ne sait même plus pourquoi on s'est embrouillé. Hein. Il y a eu cette histoire de Ferrari qu'elle ne m'avait pas offert,
oui,
qu'elle continuait à dire sur les plateaux qu'elle allait me l'offrir. Et c'est vrai qu'un jour, j'en ai eu marre, parce que 10 ans après, quand un journaliste vous pose toujours la même question, je lui dis, allez lui demander, parce que j'ai toujours pas reçu. Donc, est-ce qu'elle a été vexée ? Peut-être, mais en tout cas, aujourd'hui, je l'ai revue au mois d'octobre. comme elle l'a si bien dit, il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts.
Ah ouais, et je vous ai vu arriver, j'ai pas vu de Ferrari. Mais en tout cas, vous avez cité tout à l'heure Christophe Guillon, qui est le patron de Réservoir Immo, une société qui gagne à être connue parce que c'est un fort développement. Depuis qu'il a créé ça, il n'arrête pas d'ouvrir de nouvelles agences et puis il vous a fait confiance. Alors, Réservoir Immo est spécialisé dans tous les principaux métiers de l'immobilier, vente, location, administration de biens, syndic, transactions sur fonds de commerce. Et,
on ne fait pas de location.
Transactions sur fonds de commerce et locaux commerciaux. Il a marqué Christophe Guillon. Et je vous propose de l'écouter parce qu'il nous a parlé de vous. Christophe Guillon, bonjour. Vous êtes le président de Réservoir Immo. Qu'est-ce qui fait qu'il y a à peu près un an, vous avez recruté Mario Bervecchia?
Eh bien, écoutez, bonjour à vous également. Alors, en fait, il se trouve que je connaissais Mario dans un cercle plutôt privé depuis un certain temps déjà. Et puis, quand il y a eu cette crise liée au Covid, eh bien, son activité de communication était un peu plus compliquée et il m'a exprimé le besoin de se diversifier. Et en réalité, tout de suite, ça m'était déjà apparu comme une évidence avant même qu'il me parle d'immobilier, parce que Mario, avant tout, si je devais le définir, c'est un vrai gentil. C'est quelqu'un qui aime profondément les gens, qui s'intéresse à eux et qui est tourné à 100% sur l'humain. Et nous, chez Réservoir Immo, tous ceux qui nous connaissent savent que on a toujours dans notre recrutement initial le fait de rechercher des personnes qui ont une vraie valeur ajoutée humaine, qui sont vraiment tournés sur l'humain et ils collaient, je dois le dire, complètement au profil.
Étant une star, de par son parcours, il a eu l'humilité qui lui permet de créer ce nouveau domaine.
Alors, si je devais définir la deuxième grande qualité de Mario, c'est le fait d'être quelqu'un de profondément humble. C'est quelqu'un qui veut toujours, qui a une conscience professionnelle extrêmement marquée, et à partir du moment où il dit banco, il ne peut pas tolérer, si vous voulez, l'échec ou ne pas donner satisfaction. Il a été demandeur de formation, d'information, et il voulait arriver en étant prêt le jour J à ouvrir l'agence en étant déjà formé. Et donc, en fait, il y a eu un très, très long travail de sa part qu'il a fait pendant le soir, le week-end, pendant ces moments où son activité habituelle le permettait, pour monter à niveau sur l'immobilier. Et donc, on avait décidé ensemble que l'agence de Beaune ouvrirait à partir du moment où il serait formé. Il a voulu, au départ, être vraiment travaillé durement. Et aujourd'hui, moi, je suis fier de lui en tant que professionnel parce que, au-delà d'avoir un rapport humain aux autres hors normes, c'est quelqu'un qui sait de quoi il parle parce que il a su, si vous voulez, mettre son ambition. Il a su la mettre en avant en travaillant sans relâche à être un professionnel de qualité.
Merci Christophe Guillon pour ce témoignage.
Voilà, Christophe Guillon, beau panégyrique, un vrai gentil, humble et puis travailleur.
Je n'aurais pas demandé à tous de dire la même chose.
C'est bien. Mais ils ont été bien castés. Est-ce que vous connaissez, Mario, quel est l'animateur préféré des Français?
L'animateur préféré des Français, c'est pas Reichmann?
Pas loin, mais il est plus près de l'immobilier, justement.
Ah, c'est Stéphane Plaza.
Stéphane Plaza.
Oui, je l'ai vu, oui, effectivement. Il a été ou il est toujours, je sais pas.
Il est
payé. Oui, mais ça m'étonne pas. Je l'ai croisé, je le connais pas. Mais ça a l'air d'être aussi une personne par son parcours de très gentil, très humble et travailleur.
Alors justement, c'est pour ça que je vous pose la question. Ça ressemble au profil. Est-ce que quand on fait de l'immobilier, justement, ça aide d'avoir ce parcours? Est-ce que les gens, du coup, vous recommandent? Vous parliez tout à l'heure de votre petite dame d'un certain âge. Peut-être qu'elle n'est pas Star Academy. Est-ce que ça apporte quelque chose dans votre métier?
Alors, je vais pas dire le contraire. Alors, effectivement, quand... Alors, les gens n'osent pas le dire tout de suite, parfois. Donc, parfois, je fais visiter quelque chose. On voit que la personne, elle est un peu perturbée. Elle vous regarde bizarrement. Bon, avec les masques, en plus. Mais après, avant de partir, elle dit, mais excusez-moi quand même. Parce qu'effectivement, tu laisses ta carte de visite. Donc... mais c'est pas vrai, donc il me semblait bien, etc. Et donc du coup, effectivement, ça crée des liens. Je ne le cache pas, ça crée des liens, ça facilite les échanges. Mais bon, c'est pas parce que ça crée des liens que ça facilite les échanges. Si vous êtes mauvais, vous êtes mauvais. Donc encore, vous aurez d'autant plus une mauvaise image et un mauvais retour qui va se faire beaucoup plus vite dans le métier. Hein. Donc, moi, je n'ai pas droit à l'erreur. C'est-à-dire que je dois vraiment être bon et très précis et pas la jouer à l'envers. Quoi. Il faut vraiment être juste avec tout le monde.
C'est bien, c'est ce qu'on ressent des différents témoignages. Et puis, au fur et à mesure qu'on s'intéresse à vous, on sent une identité forte. Voilà, des gens qui s'assument. On a cité quelques étiquettes, en quelque sorte, Belgique, mais l'Italie aussi. Et il y a cette chanson « Mon pays » que j'aimerais partager avec nos auditeurs. Je crois que c'est un hommage à l'immigration italienne, c'est ça, Mario ?
Oui, parce que l'année dernière, c'était le 75e anniversaire de l'immigration italienne en Belgique. Et donc, de par l'histoire de mon grand-père, j'ai appelé mes amis artistes belges, dont Frédéric François, l'ancien Premier ministre belge Elodie Rupeau aussi, pas mal de monde, des animatrices télé belges qui sont italo-belges. Et donc on a réuni Sandra Kim aussi, qui avait gagné l'Eurovision pour la Belgique à l'époque. Et voilà, je les ai réunis autour d'un clip vidéo et une chanson qui s'appelle Mon pays, qui a été composée par un italo-belge forcément, qui s'appelle Silvano. Et on a sorti la chanson l'année dernière en Belgique, et ça fait un beau petit buzz pour nos ancêtres italo.
Très belle initiative écuménique, et puis on va l'entendre.
Seul, solitaire, sans mettre sous terre, je respire la poussière, sans lumière.
Mais que serais-je sans
mauvaise mine.
Mon atout mineur. Si je descends si loin,
c'est pour que tu ne manques de rien
et que ta vie soit remplie de chaleur.
Destin.
Alors, on le comprend bien, vous êtes un vrai Européen, il y a de l'Italie, il y a de la Belgique, il y a de la France, et tous les pays, vous les avez conquis.
Je le revendique très souvent.
Mais parlons encore de ce marché immobilier que vous avez pris à bras-le-corps. Quand on le découvre, ça fait quelques temps maintenant, qu'est-ce qui vous marque ? C'est pas facile, il y a de la concurrence, quels sont vos atouts ?
Oui, je le vois, effectivement, je vous cache pas qu'il y avait aussi une crainte de démarrer même à Beaune, parce qu'à Beaune tout le monde se connaît, hein, et donc ils vont se dire attends encore qui nous fait encore un nouveau truc, hein, maintenant il est dans l'immobilier et avant dans l'édition, enfin toujours dans l'édition, mais non, ça a été très bien perçu, bon, parce que je les connais d'abord, mes collègues, je dirais pas concurrents, collègues, je dirais plutôt, et il y a de la place pour tout le monde, il faut être sérieux. Voilà, il faut être sérieux, il faut bien travailler, il faut bien suivre son dossier jusqu'au bout et le client, parce qu'on fait vraiment un travail aujourd'hui très précis, jusqu'au compromis de vente, jusqu'à chez le notaire, etc. Donc le notaire, on leur facilite parfois la tâche, hein, aujourd'hui. Donc c'est plus qu'un métier de l'immobilier. Aujourd'hui, j'apprends tous les jours, mais je suis assez, j'ai été très étonné que l'agent immobilier allait jusqu'au point de faciliter la tâche à des notaires ou même à d'autres personnes.
Bien sûr. Non, mais c'est un métier beaucoup plus complexe qu'on croit et qu'on imagine.
Les gens ont l'impression que c'est... Non, c'est pas un métier commercial seulement. Hein. Ouais. On fait du juridique, je veux dire, faut vraiment être formé. Aujourd'hui, pour faire ce métier, il faut être sérieux.
Même si vous n'êtes pas dans ce métier depuis de nombreuses années, est-ce que vous avez le sentiment... puisque vous êtes au contact justement de vos clients, que les aspirations ont changé avec justement cette crise sanitaire, des demandes peut-être de verdure, d'espace, de vivre tout simplement différemment.
Alors en tout cas, on ressent chez nous en Bourgogne qu'il y a de plus en plus de personnes qui viennent de l'extérieur. Des Parisiens par exemple, qui viennent de plus en plus sur Dijon, ou même des gens d'ailleurs. Hein, mais on sent vraiment que les gens privilégient la qualité de vie. Et change de ville pour ça, surtout. Et effectivement, je pense que le confinement, les personnes qui étaient dans des 30, 40 mètres carrés avec 3 ou 4 enfants, ont dû souffrir beaucoup. Et ont changé leur manière de vivre. Et voilà.
Et ça agace, justement, peut-être ces Parisiens à souvent un fort pouvoir d'achat, parce qu'il y a des écarts quand même assez, assez conséquents.
Non, ça n'agace pas, ça agacerait.
Parce que ça peut faire flamber certaines communes, zones, et du coup, les locaux peuvent se dire...
Sur Dijon, effectivement, ça augmente un petit peu, je pense qu'il y a des flux dans la vie. Hein. Je pense que ça va augmenter, ça va redescendre. C'est comme les taux pour les prêts bancaires. Hein. Aujourd'hui, je pense que ça va augmenter aussi dans quelques temps. La vie, c'est ça. Après, c'est à nous de gérer les choses de telle façon à que ça aille bien. Hein. Mais on n'a pas le choix que d'aller avec ce qui se passe dans la vie.
Alors, il y a une autre spécialiste de la région, c'est Cécile Martel. C'est la responsable régionale du fichier AMEPI. Et elle-même, avant d'entrer en contact avec Mario Baravecchia, elle s'est demandé ce que ça allait donner. Eh bien, on va l'écouter, on va comprendre. Cécile Martel, bonjour. Vous êtes la responsable régionale du fichier AMEPI pour le Nord-Est. Bienvenue.
Merci à vous, Fabienne.
Alors, vous êtes en contact avec Mario Baravecchia, qui est, comme on le sait, situé à Beaune. C'était facile, l'histoire avec Beaune et ses représentants pour le fichier AMEPI ?
Alors, Beaune est une très jolie ville sur laquelle on a créé donc un fichier AMEPI récent. Et c'est vrai que j'ai été contactée pour intégrer l'agence de réservoir IMO dont Mario est un des principaux associés. Et oui, les choses se sont faites assez facilement parce que c'est vraiment quelqu'un de très professionnel, très agréable, avec qui les échanges sont assez faciles et qui s'est parfaitement intégré à ce nouveau groupe beaunois.
C'est pas évident quand on vient d'un autre milieu, quand on est connu pour avoir pratiqué le show business. Quand on parle de fichier AMEPI, d'immobilier, de transaction, ça paraît technique. Ce shift, pour vous, il l'a réussi, Mario Baravecchia ?
Oui, il a vraiment, relevé le challenge haut la main. C'est vrai qu'on pourrait imaginer que sortant d'un monde qui est très très différent de l'immobilier, il y aurait peut-être une difficulté d'adaptation, et pas du tout. C'est quelqu'un qui est très très pro, qui a su s'adapter à ce nouvel environnement professionnel, qui a une capacité d'adaptation et d'apprendre qui est assez impressionnante. Et donc, il est totalement familier avec le métier aujourd'hui, et on l'a accueilli avec énormément de plaisir.
Et c'est vrai que quand on a été sous les feux de la rampe, quand on a pris le micro, on peut s'attendre à voir débarquer quelqu'un d'un petit peu pontifiant, prétentieux, qui ressemble à ça.
Alors, c'est, je vous le cache pas, Fabienne, c'est un peu la pensée qui m'est venue à l'esprit quand on m'a expliqué que j'allais rencontrer un patron d'agence tel que Mario. Et finalement, il est complètement à l'inverse de l'image qu'on pourrait se faire de lui. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est extrêmement humble, réservé, qui est à l'écoute, qui est pas du tout dans la prétention. Bien au contraire, c'est vraiment quelqu'un qui sait s'adapter et qui a beaucoup d'humilité par rapport à sa nouvelle activité.
Merci beaucoup pour cet éclairage, Cécile Martel. Je rappelle, vous êtes responsable régional du fichier Amépi dans le Nord-Est. Au revoir.
Ça y est, vous connaissez les institutionnels, le réseau Amépi, vous êtes introduit partout.
Mais oui, vous m'avez demandé une collaboratrice. Et Cécile, je la connais depuis très peu de temps, hein, donc du coup, mais voilà, ça a tout de suite accroché. Je la trouve pétillante, je la trouve très pro aussi. Et j'ai pensé à elle parce qu'elle aurait, je me dis, un autre regard justement que mes deux autres camarades. Bah écoutez, finalement, je suis content qu'elle ait aussi ce regard. Hein.
Alors ça y est, tout le show business vous appelle pour trouver le logement de ses rêves.
Mais écoutez, en tout cas, mon amie Liane Folly, qui est vraiment une amie intime, je l'ai eu hier au téléphone, elle m'a dit « Mario, j'adore Beaune, il faut que tu me trouves un appartement à Beaune ». Non, elle voudrait vraiment avoir son appartement à Beaune parce qu'elle adore cette ville. Et quand elle vient me voir de temps en temps, je me dis « pourquoi pas acheter un appartement ?» Et puis ben, je le loue de temps en temps, et puis quand je viens, j'ai mon appart. Ben, je dis « écoute Liane, on va te trouver un appartement
». Alors je ne sais pas avec quelle voix elle va faire la réservation, parce qu'on sait qu'elle sait oui. Prendre toutes les voix et faire des imitations. Il vous étonne pas, Fabrice, on a un invité
si,
extraordinaire.
Fabrice, tiens, il s'appelle comme mon frère. Hein, ah ben voilà. Mon petit frère s'appelle Fabrice.
Fabrice ou Fabrizio?
Non, Fabrice. Ma mère avait mis Fabrice, effectivement.
Ah, très bien.
C'est plus et Fabrice, rare, je pense qu'on pas facile de se faire un prénom à l'ombre d'une star comme vous, alors.
Oh, j'ai un petit frère qui fait rien à voir comme moi. Enfin, vraiment, il est dans l'alimentaire italien. Voilà, en Belgique, il a sa petite femme, il a ma petite filleule, qui est grande. Elle grandit beaucoup plus vite que nous. Hein.
C'est non, je me posais la question justement en écoutant ce parcours. C'est vrai, c'est vraiment l'illustration qu'on a plusieurs vies dans une vie avec vous, Mario. Est-ce que vous avez déjà des fourmis dans les jambes pour une prochaine aventure entre la chanson, l'édition, des festivals, ou est-ce que vous dites bon là l'immobilier ça me plaît, j'ai envie de rester?
Non, alors ça c'est vraiment des entreprises. Qui me font vivre, donc c'est vraiment un vrai travail. Donc j'ai mon magazine, l'édition, qui est là depuis 11 ans et que je continue à développer avec une équipe qui est sur le terrain depuis plusieurs années. Voilà, maintenant j'ai l'immobilier et pour moi c'est un vrai métier, c'est un vrai challenge aussi parce que je me mets des objectifs, forcément. Là on va recruter une nouvelle personne pour l'agence de Beaune. Il y a le projet d'ouvrir l'agence à Chalon-sur-Saône. Voilà, je pense pas avant la fin de l'année, voire début d'année prochaine. Donc ce sont des choses vraiment très importantes et c'est mon travail au quotidien. Après, il y a le plaisir, la passion. Effectivement, je prépare un nouvel album.
Mais ça prend du temps quand même de faire tout ça.
Oui, mais comme je n'ai pas de pression ni de maison de disque ni de quoi que ce soit, et que je suis en coproduction avec des producteurs, on le fait tranquillement. Là, le premier single sortira en mois de mars avec un clip qu'on tourne dans quelques semaines d'ailleurs. Voilà, c'est un album qui va me faire plaisir. J'aurai des duos aussi. Voilà, je ne fais pas cet album pour que ça marche. À tout prix, effectivement, si ça marche, je suis content. Hein, on va faire quelques émissions télé, on va faire quelques plateaux radio. Si ça marche pas, ça change pas ma vie, c'est ce que je veux vous dire. Voilà.
D'accord. Et justement, j'ai une question par rapport à l'industrie de la musique aussi. Vous avez vu cette révolution, vous l'avez vécu de l'intérieur, c'est-à-dire, bah, voilà, on parlait de single, on parlait de cassette VHS qu'on devait envoyer. Aujourd'hui, tout le monde a son smartphone et on a une industrie du streaming. Comment vous abordez ça? Parce que c'est dur d'en vivre aussi, il faut être vraiment dans les meilleurs.
Bah, c'est ça qui est très compliqué, c'est pour ça que je vous dis que j'ai bien fait finalement en 2010 de choisir... La voie du travail, voilà. Parce qu'aujourd'hui, je serais certainement à la rue. Moi, je connais des gens qui ont vendu des millions de disques qui aujourd'hui sont dans des studios de 20 mètres carrés et qui courent après des cachets à 200 euros. Voilà. Donc,
sinon, il y a
c'est compliqué, c'est difficile.
Cendre et Tête de Bois, là, pour les anciens chanteurs.
Il y a eu, effectivement, mais Non, mais c'est la preuve que, regardez, des anciennes stars sont venues prendre au cachet. Mais heureusement qu'il y a eu ça, hein, pour ces stars. C'est très compliqué, la musique, aujourd'hui. Pouvoir vivre de la musique. Quand vous savez qu'un million de streaming rapporte 1500 euros environ à l'artiste.
Un million de streaming, c'est-à-dire sur les grandes plateformes qu'on connaît,
voilà,
nous, on est aussi une radio
digitale.
C'est
très, très, très compliqué. Très compliqué.
iTunes, Deezer.
Aujourd'hui, il faut être un Vianney, par exemple, qui est auteur, compositeur et qui écrit pour d'autres artistes, ou un Jean-Jacques Goldman, pour pouvoir aujourd'hui vivre de sa passion. Après, effectivement, il arrive toujours un tube international. Je pense à Stromae. Je pense. Voilà, il y a toujours des choses. Mais pour que ça arrive, il faut vraiment être à 100%. Moi, aujourd'hui, je ne suis plus à 100%. Je le considère comme une passion. Ça fait plaisir à mes enfants. J'ai la chance d'être aussi, d'avoir cette popularité et d'être invité par des médias. Et j'y vais avec beaucoup de plaisir. Et je suis aussi en train d'écrire un livre. Ça, c'est très important. Parce que c'est un livre qui raconte un petit peu le parcours avec mon papa qui est parti de la maladie de Charcot en 2009. Donc, il est parti en 6 mois. Donc, j'ai écrit un livre sur cette maladie et sur sur l'accompagnement que j'ai eu avec lui et sur l'euthanasie. Mmh. L'euthanasie qui est légale en Belgique, qui est légale en Suisse, qui est légale dans certains pays autour de chez nous et qui ne l'est pas en France. Donc, je suis en train d'écrire un livre qui me touche beaucoup puisque c'est l'histoire de mon papa et qui touche aussi, j'ai remarqué, beaucoup de gens parce qu'on a toujours quelqu'un, un proche qui qu'on connaît et qui
est dans ce cas-là, proche.
Qui n'a peut-être pas cette maladie-là, mais qui a une autre maladie et c'est toujours très compliqué de se mettre à la place et du malade et de la personne qui l'accompagne, de se dire qu'est-ce qu'on fait. Donc voilà, un livre qui forcément, bien entendu, me touche particulièrement, avec qui je le fais avec un co-auteur qui est un ami aussi, parce que il faut du temps pour écrire un livre. Mais en tout cas, voilà, je suis dans cette période-là, et je vous cache pas que des fois à 3h du matin, je suis en train d'écrire. Voilà.
Alors tout ce que vous faites, c'est ce que j'allais dire, vous faites tellement de choses, vous dormez quoi, 4 heures par nuit?
5 heures par nuit, c'est...
Une vraie star.
Je n'ai pas, j'ai pas besoin de plus. Parfois, le dimanche, je m'endors en ronflant devant Drucker. Hein, avec, voilà, ma femme a pris l'habitude. Non, mais non, vous savez, je dis toujours que je dormirai quand je serai mort. J'aurai tout le temps à ce moment-là, mais tant qu'on peut et qu'on a l'énergie, voilà.
Mais effectivement, ce que vous avez développé comme qualité dans certains domaines, ça vous aide sur d'autres terrains
Tout à fait. Vous savez, c'est une bonne école, hein. Enfin, la Starac, et même accélérer, faire des plateaux télé, vous savez, chanter devant 10 000 personnes tous les soirs, pendant plusieurs mois, les gens ne se rendent pas compte, mais c'est un vrai travail physique et mental. Et effectivement, mon parcours artistique m'a appris beaucoup. Après, effectivement, j'ai toujours été dans l'entrepreneuriat. Je me rappelle, à l'âge de 10 ans, je faisais des pizzas dans le restaurant de mon père. J'ai toujours aimé le contact avec les gens. J'ai toujours voulu... J'ai organisé ma première soirée, j'avais 15 ans. Où j'avais 600 personnes, j'avais 15 ans. Et je me dis, waouh, c'est bien. Donc je faisais mes flyers, j'allais voir le fleuriste du coin s'il me donnait pas un peu d'argent pour sponsoriser mon événement. J'ai toujours aimé organiser des choses, être en contact avec les gens. Donc voilà, ça ne s'invente pas. Je pense que j'ai 100 moins.
Et puis vous n'avez pas peur, surtout que ça s'arrête, puisque vous avez mis d'autres choses en marche finalement.
Non, après, faut pas s'éparpiller de trop. Hein. Là, je pense qu'au niveau entreprise, c'est bien. J'ai d'autres projets, mais ce sont des projets qui sont des investissements sur tel ou tel produit. Aujourd'hui, c'est un vrai métier, l'immobilier. On ne fait pas l'immobilier comme ça parce que pour passer son temps. Donc, c'est vraiment un vrai métier. J'ai la chance que dans l'édition, j'ai une équipe qui est en place depuis plus de 10 ans. Donc, ça me demande pas non plus tout mon temps. Mais j'essaye de partager, en tout cas, alors effectivement, je fais pas 8 heures de travail par jour, hein. Donc je sais pas qui, quand elle a inventé ça, Madame Taubira, elle aurait dû réfléchir, mais j'en fais plutôt 15, voilà.
Ça vous étonne pas que dans la campagne présidentielle, on parle à peine du logement?
C'est
presque un bien de première nécessité, ça concerne tout le monde, et on n'en parle pas. C'est bizarre, non?
Alors, on va pas rentrer dans la sphère politique, parce que sinon ce serait une autre émission.
On rappelle que vous avez un petit engagement quand même, 2020.
Tout à fait, tout à fait. Il y a rien à cacher. Je l'ai surtout fait pour embêter le maire actuel. J'ai réussi d'ailleurs, parce qu'il est pas content, du coup. Non, mais pour faire de la politique, faut aimer les gens. Voilà. Et je pense que les histoires comme Fillon et compagnie, ça va prendre fin. Parce que c'était d'une autre génération, d'une autre époque. Et qu'on peut pas tricher avec les gens. À un moment donné, qu'on fait travailler sa fille, sa femme, et que les gens sont pas là, c'est se foutre de la gueule des Français. Et je pense que c'est en train de finir. Ce temps-là est en train de finir. Alors, il en reste encore quelques-uns, mais c'est la fin. C'est la fin. Et quand j'ai dit à ma femme que j'allais faire ça, elle m'a dit, mais qu'est-ce que tu vas faire? S'il te plaît, ne fais rien. En plus, j'étais en cours italien à l'époque.
Donc, alors, faut quand même expliquer, hein, parce que vous avez vu un petit épisode. Quel engagement politique?
Ah oui, je me suis présenté au municipal à Beaune en juste avant le Covid. C'était en 2020. Et effectivement, je devais accompagner le maire sortant, mais bon, voilà, bref, que je connais, qui était un copain, hein, mais certaines méthodes et certaines
pratiques.
Certains comportements et certaines pratiques ne m'ont pas plu, et je me suis dit, moi, je fais pas de la politique comme ça, voilà. Et donc, je me suis présenté comme ça contre lui, de façon, j'étais italien, et la loi précise qu'un Européen peut faire une liste, mais ne peut pas être maire.
Ah,
c'est contradictoire, vous savez. Mais donc, dans le journal, en gros titre, Mario est italien, ne peut pas devenir maire, hein, 15 jours avant. Mais du coup, il n'est pas passé au premier tour. Donc, c'était un peu ma petite victoire. et puis voilà, bon, quand on se croise, on se regarde. On se regarde.
Mais vous allez continuer, du coup ?
C'est une question que je me pose, parce que la politique, c'est un engagement sérieux et un engagement important. J'aime ma ville, je suis persuadé qu'on peut faire encore de très très belles choses à Beaune, mais voilà, faut pas prendre ça à la légère.
Vous auriez par exemple interdit le Airbnb, ou pris des arrêtés pour vous limiter?
Ah, mais je l'aurais peut-être pas interdit de manière drastique comme ça, mais en tout cas j'aurais en amont, depuis plusieurs années, travaillé pour limiter en tout cas effectivement la croissance du Airbnb, c'est sûr.
Et vous qui connaissez, voilà, vous êtes allé au cœur du système, hein, quand on est sous les yeux des Français, des millions de téléspectateurs, on est proche du moteur. C'est pas facile aujourd'hui d'avoir une bonne image. On le voit, on parle de politique, dès qu'ils font quelque chose, ils sont quand même critiqués. On peut interpréter les choses dans les deux sens. Dès que vous êtes sur les réseaux sociaux, les gens déversent leur haine. Et vous, globalement, vous avez une image positive. C'est une sacrée prouesse. Vous y travaillez ou c'est naturel ?
J'y travaille. Vous savez, je pense que quand on est, faut pas tricher avec les gens. Voilà. Faut pas tricher avec les gens. Les gens m'ont vu pendant des mois en direct 24 heures sur 24. Vous savez. Et quand on est 24 heures filmé, 24 sur 24 filmé, on peut tricher deux jours. On peut pas tricher trois mois.
D'ailleurs, il paraît qu'on oublie les caméras au bout d'un moment.
On les oublie, forcément, mais surtout à la première. On n'était pas habitués. Aujourd'hui, c'est pour ça que la télé-réalité d'aujourd'hui n'a rien à voir avec la nôtre. Parce qu'aujourd'hui, ce sont carrément des scénarios qui sont mis en place. Et ils savent ce qui se passe derrière. Ils savent les titres des journaux. Enfin voilà. Donc c'est plus le même business. Nous, c'était pas un business. Nous, c'était vraiment, on était là pour apprendre. Et on était spontané. Comme Arthur, à l'époque d'ailleurs, ne savait pas où il allait avec cette production. Et malheureusement, aujourd'hui, on a tourné cette page. On est à l'heure des influenceurs, des influenceuses, des réseaux sociaux, qui peuvent être dangereux. Moi, je le vois avec mes enfants, ça peut être dangereux, donc faire très attention. Voilà, faut surveiller. Mais il faut prendre ce virage quand même.
Bien sûr.
Il faut prendre ce virage quand même. Voilà, et je pense qu'on est vraiment au tout début du virage. Hein. Je pense que ça va être dans quelques années, ce sera plus que l'Internet. Hein, voilà. Mais voilà, faut être prudent. Il faut être prudent. Et l'image, vous savez, vous reflétez l'image. Moi, quand je me lève le matin, que je me regarde dans une glace, je me dis, ça va, tu peux encore sortir.
Et pour Réservoir Immo, pour vos métiers, vous savez utiliser, vous avez envie d'utiliser ces outils.
Oui, après, il y a des gens qui ne nous aiment pas, forcément. Tout le monde ne nous aime pas. Mais quand il y en a 2 sur 100, c'est que quand même, voilà.
On arrive bientôt au terme de cette émission. J'ai une question subsidiaire, c'est le chant, justement, l'importance de la musique dans votre vie. Bon, on a entendu, évidemment, vos productions. Vous continuez à vous entraîner, à travailler ça ?
Alors, je recommence, là. Mais effectivement, pendant quelques années, j'ai pas eu le temps. Et je le vois, d'ailleurs, maintenant, parce qu'on peut se dire qu'on chante, c'est comme du vélo, mais non. Les cordes vocales, ça se travaille. J'ai vu, quand j'ai repris les studios il n'y a pas très longtemps, que je manquais un peu de souffle, que je manquais un peu de conditions physiques, que j'ai perdu quelques aigus. Et oui, forcément, parce que la célèbre Armand Altaï, que j'embrasse, me le disait toujours. Ça se travaille tout le temps, ça. Tous les jours, tous les jours. Et bon, il faut que j'en quand même 5 heures. Hein, si je me fais encore une heure de coach vocal.
Donc c'est quand que vous réveillez le matin tôt, le soir tard,
Ah non, je me lève tôt. Ouais. Moi, je suis à.
Vous réveillez toute la
maison. À 8h15, je suis au bureau. Voilà. Et puis, je rentre parfois tard parce que. Je rentre pas avant 21h.
Qu'est-ce que vous chantez en ce moment, là, comme ça pour
Qu'est-ce que je chante?
Ouais, pour chanter.
Je chante. Non, mais moi, j'écoute tellement de musique variée, que ce soit du classique, que ce soit, enfin, de tout. Je chante rien en particulier pour l'instant, mais j'écoute beaucoup de musique. Mon grand garçon, qui a 18 ans, fait du piano. Donc, de temps en temps, il m'envoie quelques liens et il me fait découvrir des chansons incroyables. Et ça me plaît beaucoup.
Bah justement, on va se quitter peut-être en musique, Fabienne.
Oui, quel plaisir. C'est vraiment intéressant d'écouter un jeune qui n'est pas resté comme ça, scotché à ce qu'il faisait, alors que c'était déjà une magnifique réussite, de nouveaux projets constamment. Bravo, Mario, de nous avoir raconté
merci
ça. Merci de nous
invitation.
Avoir fait passer ce beau moment.
Mario Baraka, c'était notre invité du jour radio, sur Radio Imo. D'ailleurs, l'invitation est lancée. On va peut-être... produire d'autres émissions avec vous, Mario.
On va réfléchir à ça.
Dans la musique,
pas.
Dans l'immobilier, vous êtes à la croisée des chemins. En tout cas, vous avez votre place ici.
C'est
peut-être un plaisir. On se retrouve quant à nous dès la semaine prochaine pour un prochain Mac de l'Immo. Très bonne journée à tous.
Le Mac de l'Immo, la matinale info et rencontre dédiée à l'immobilier, chaque vendredi 7h-9h, à retrouver en podcast sur radio.immo et toutes les plateformes de streaming.